Kiosque Magazine.
Bonjour et bienvenue à Kiosque Magazine. Vous êtes en compagnie de Dominique Meillet. Et aujourd'hui, mercredi 8 octobre, je vais vous faire le portrait de trois femmes au champ. Je vous parlerai des chats superstars, quelques conseils pour la chevelure. Et ensuite, je vous parle de notre voix et enfin, quelques conseils pour préparer votre maison pour l'hiver. Restez avec nous, Kiosque Magazine débute dans un instant. Trois femmes au champ. Elles sont femmes d'affaires, travaillent la terre, élèvent des moutons, font pousser des légumes et s'occupent des enfants. Pour elles, la ferme, la famille et la vie, ça va de soi. C'est un texte par José Larrivé dans le coup de pouce d'octobre 2014. Des Neiges Pépin, bergerie des Neiges à Saint-Ambroise de Kildare. Un soir de mai, où des confrères finissant en droit partaient fêter, Des Neiges Pépin répondit à l'un d'entre eux qui lui demandait pourquoi elle ne venait pas. Parce que moi, je ne fais que commencer. Des Neiges savait qu'elle ne voulait pas pratiquer le droit. Je connais l'importance de suivre mon instinct. Le droit, c'était pour me prouver quelque chose, mais ma passion, c'est la terre. C'est peut-être son amour du tricot qui lui a valu d'acheter ses 11 premières brebis. C'était avant de savoir qu'au Québec, la qualité de la laine n'est pas tellement prisée et que c'est pour la viande qu'on élève des moutons. Pendant que son homme enseignait la musique, elle s'occupait de sa ferme. Ils y ont élevé trois fils, Johan, Vladimir et Ludovic. C'est le petit dernier qui a attrapé la piqûre. Des Neiges n'hésite pas à dire combien... En près de 30 ans, la ferme lui a servi d'enseignement. Dans les moments durs de sa vie, se retrouver parmi ses brebis lui a toujours apporté un grand sentiment de sérénité. Pour moi, il s'agit d'une solution toute organique. Les animaux, la terre, la famille, ça va ensemble. N'empêche, Des Neiges a évolué dans un monde d'hommes. Première femme à siéger au conseil exécutif provincial de l'UPA pendant 5 ans, première femme à présider la Fédération des producteurs d'agneaux du Québec pendant 7 ans. À une certaine époque, je gérais une table de 12 fermiers, dont certains pour qui le meilleur moyen de se faire entendre était de parler fort. J'ai parfois dû mettre mon poing sur la table. Des Neiges observent certains changements, mais l'agriculture demeure majoritairement un monde d'hommes. Des Neiges et son conjoint Pierre, aujourd'hui associé à leur fils Ludovic, s'occupent encore d'un troupeau de 275 brebis. Mais la famille a vécu de dures années. Quand le cheptel québécois a connu la maladie de la tremblante, en 2001, on a dû éliminer nos 400 brebis et repartir à zéro. Ça a été très dur. Je les avais toutes mises au monde et j'ai dû leur enlever la vie. Des Neiges a deux petites à qui enseigner le tricot. Et peut-être saura-t-elle aussi, qui sait, transmettre à nouveau le bonheur de vivre sur une ferme. Julie Lefort, qui les sert Lefort. Quand on se montre impressionné du fait qu'à son âge, Julie Lefort soit déjà la maman de 3 jeunes enfants, elle a 25 ans. Elle répond à la blague qu'elle et son conjoint ont triché. Les deux derniers sont jumeaux. De toute manière, elle a une centaine d'employés étrangers qu'elle considère comme sa famille. À 4 ans, lorsque ses parents ont divorcé, Julie a quitté les serres pour aller vivre avec sa mère et ses deux frères, mais elle revenait passer ses étés à la ferme. À l'adolescence, j'étais contre les serres, contre les légumes, contre mon père, si bien que je suis allée travailler ailleurs. J'ai pratiqué différents métiers d'étudiant, mais je n'étais nulle part aussi bien que sur la ferme. J'essayais de fuir ce que je portais en moi. J'ai mis un certain temps à l'admettre. Après sa crise d'adolescence, Julie est allée étudier à l'Institut de technologie agroalimentaire de Saint-Hyacinthe. Ainsi, depuis le printemps 2013, et beaucoup grâce à cette jeune Québécoise, les grandes chaînes d'alimentation sont en mesure de nous offrir les premiers poivrons bio-cultivés en serre d'ici. Quand elle a accouché des jumeaux et qu'elle a dû confier son bio à quelqu'un d'autre, elle a compris qu'il n'a pas toujours dû être facile pour ses parents de lui accorder leur confiance. Les serres Lefort sont bien connues du milieu agricole pour leurs plants de légumes. Quelque 65% des transplants au Québec proviennent de leurs serres. Leurs clients sont parmi les plus gros producteurs maraîchers de la province. Et c'est avec Julie qu'ils doivent désormais traiter. J'en ai vu des clients mécontents. Certains me parlaient comme on parle à une enfant. Je le sais, j'ai une voix jeune, je ne m'exprime pas comme une femme d'affaires, et certains me voient comme une petite blondinette. Ce n'est pas seulement d'être une femme qui me fait de l'ombre, c'est surtout être une jeune femme. On dirait que c'est impardonnable. Julie a joint les rangs de l'entreprise à titre de diplômée en 2009. Tout de la ferme lui est maintenant familier. La culture et la bioculture, l'emballage et son design, la gestion de la main-d'œuvre, les ventes, le marketing, l'optimisation des tâches, la recherche et le développement. Aussi, lorsqu'un client légèrement irrité lui dit « Passe-moi ton père », le PDG fondateur n'hésite pas à retourner les clients vers son experte. Il a peut-être raison puisque le chiffre d'affaires de l'entreprise a doublé depuis 2011. Et enfin, Pascale Coutu, la courgerie à Sainte-Élisabeth. Depuis qu'elle est petite, Pascale Coutu aime les gens et les gens l'aiment. Aussi, lorsqu'elle s'est dirigée vers des études en tourisme dans la jeune vingtaine, personne n'a été surpris. Lorsque ses parents ont annoncé leur désir de vendre la ferme laitière sur laquelle elle avait grandi, ni son frère ébéniste ni sa sœur vétérinaire n'avaient d'intérêt. Elle, la petite dernière qui s'y était mariée 2 ans plus tôt, sous un grand chapiteau blanc, n'avait jamais envisagé la chose. Expliquer comment Pascale et son mari Pierre Tremblay, un directeur en ressources humaines dans le monde provincial, sont devenus propriétaires en 2003 de la ferme des Coutus et y ont fait pousser 100 000 citrouilles sur 20 hectares tient du roman. « Va voir la fille à André, disait-on au village. Elle est rendue folle. C'est orange à grandeur. » Pascale avait choisi comme objet de sa folie la courge, d'abord et avant tout parce qu'elle en aimait les formes et les couleurs. Pascale Coutu, toute sa vie, première de classe, se raconte comme si elle avait la tête en l'air, mais au fond, elle a toujours bien accompli ses devoirs. Les plans étaient tirés, les contrats signés. Elle allait vendre ses citrouilles aux Américains. Puis sont survenus les événements du 11 septembre. Cette année-là, les transactions maraîchères hors frontières se sont tues. Et la belle s'est retrouvée avec 80 000 courges, potirons et autres cucurbitacées sur les bras. On était dans la brouette, on n'avait pas de toilette, mais on n'avait pas le choix. On a mis nos beaux habits et j'ai ouvert les portes au public. Les gens ont aimé. L'année suivante, Pascale a fait un peu de publicité. En 2003, au moment d'acheter officiellement la ferme, elle avait en main un plan d'affaires et l'intention d'ajouter l'agrotourisme à son arc. Elle avait des installations sanitaires, un sol en gravier et elle a reçu la visite comme une fille qui s'y connaît en tourisme. On a eu 10 000 personnes en 8 semaines. Aujourd'hui, Pascale cultive entre 300 et 400 variétés de courges et de cucurbitacées. Et les gens viennent de partout pour visiter l'objet de sa passion. Mon royaume demeure la terre. Il est certain que le sarclage, c'est moins drôle. Mais être au champ, ça me grande. Énormément. Oui, certaines courges pèsent une trentaine de kilos, mais je le prends comme un workout. J'ai développé des astuces. Et je peux dire humblement qu'au champ, je suis mon meilleur homme. Superstar, c'est par Manon Chevalier dans le Véro Magazine de l'automne 2014. Il s'appelle Maru, Lil Bud, Grumpy Cat ou Choupette. Ils sont suivis religieusement par les millions d'abonnés de leurs comptes Twitter et Instagram. Ils ne comptent plus leurs amis Facebook ni les visiteurs de leur blog. Leurs vidéos web et leurs photos hilarantes provoquent des millions de clics. Leurs fans font main basse sur leur collection de t-shirts, de casquettes et de porte-clés, griffés. À coups de patte, de ronron ou de regard snob, les chats sont devenus les nouvelles icônes du web. Au sommet de ce panthéon félin mondial, Grumpy Cat, de son vrai nom Tardar Sauce. la chatte la plus grognonne du web, dont la page Facebook compte 6,5 millions de mentions « j'aime », soit presque un demi-million de plus que celle de Sir Paul McCartney. Quand la grincheuse ne daigne pas poser à la une du vénérable magazine Time ou être l'égérie d'une grande marque de croquettes pour chats, elle lance un livre, « The Grumpy Guide to Life », ou joue dans la prochaine comédie « Blockbuster » de Hollywood. Mais le star système est cruel. D'autres petites boules de poils, comme Snow Baby Babe, l'adorable chat chinois aux yeux de poupée triste, considéré comme le chat le plus mignon de 2013 par les chatophiles, voient leur cote d'amour grimper plus vite qu'un matou chassant une souris. Comment expliquer que les chats se soient hissés au rang d'idole? C'est dû en grande partie à l'apparition des lolcats, des images délirantes de chats, dont le nom est une contraction de LOL, soit Laughing Out Loud, et de Cat, qui sont accompagnées d'un commentaire humoristique décalé, rédigé en langage enfantin. Apparu pour la première fois sur le site de Geeks, les LOL Cat sont un des phénomènes viraux les plus puissants d'Internet. Mais l'art contemporain s'est laissé séduire. Des peintres et des photographes ont présenté des œuvres consacrées aux chats au cours de l'exposition Lolcat à la Framers Gallery de Londres. Les clips en ligne suivent la tendance. On compte aujourd'hui plus de 5 milliards de vidéos de chats dans Internet. Et les plus populaires sur YouTube ont été vues 300 millions de fois. Si bien qu'un festival mondial de vidéos de chats a été lancé par le Walker Art Center à Minneapolis. Résultat, plus de 10 000 fans finis s'y sont pressés l'an dernier. Cet été, Montréal a accueilli le festival Just for Cats. Et côté best-seller, le livre Lolcat fait sensation avec sa galerie de portraits de félins déguisés notamment en hipster, en majorette, en DJ ou en reine de beauté. Si on en croit les observateurs de la pop culture, le mouvement chatophile n'est pas prêt de s'essouffler, bien au contraire. Mais que révèle cet engouement pour les chats qui nous émeuvent et qui nous font rire, particulièrement sur le web? Les félins virtuels pourraient-ils rendre le net plus convivial et plus humain? Normand Miron, vice-président exécutif de Why Not Blue, comme une agence interactive et blogueur, on est persuadé. L'obsession pour les chats est une façon ludique et authentique d'entrer en contact avec les autres sur les réseaux sociaux, de vibrer au même diapason et qui sait, d'amorcer une vraie communication. Je dirais même que les chats sont le social toy idéal pour riposter au narcissisme qui domine sur les réseaux sociaux. Grâce aux lolcat et aux vidéos de chats, on parle de soi par l'intermédiaire d'un animal qui attire la sympathie sans en mettre plein la vue ou se mettre en scène. Cette tendance est une bouffée de tendresse dans un monde virtuel parfois hostile. Une chose est certaine, pour bien des adeptes, les minous injectent une dose d'humour et de bonne humeur dans les journées surchargées, souvent stressantes. Voir Maru, un gros matou japonais, foncer dans des boîtes de carton, ça me fait mourir de rire chaque fois, dit Julie, une gaga de chat de 32 ans. Je partage ces vidéos spontanément, par pur plaisir. On est des dizaines comme ça dans mon réseau d'amis. On s'écrit des niaiseries, on rigole et mine de rien, ça nous rapproche. Les plus sentimentales, comme Marianne, 39 ans, craquent pour Lil Bud, une chatte naine édentée et à la langue rose qui fait sensation avec son talk show, Lil Bub's Big Show, et qui compte plus de 450 000 fans sur Instagram. Selon les anthropologues, nous sommes génétiquement programmés pour être sensibles aux créatures qui, comme les bébés, sont dotées d'un front bombé et d'yeux ronds, émettent de petits cris et ont l'air vulnérables. Cette forme d'attendrissement, surnommée kawaii, qui veut dire mignon en japonais, marque notre attrait spontané pour tout ce qui est adorable. Mieux, selon les chercheurs nippons, le kawaii focaliserait notre attention et générerait une sensation de bien-être. Qui de nous n'a pas déjà lancé un « oh » attendri à la vue d'un chaton endormi et sentit son cœur fondre et s'ouvrir comme par miracle. Bien sûr, on pourrait croire que les minutes ou les heures passées devant les vidéos de chats riment avec zoothérapie, mais il n'en est rien. Selon le psychologue et zoothérapeute Georges-Henri Arnstein, une zoothérapie implique obligatoirement l'intervention d'un thérapeute, d'un maître et d'un animal. Mais bon, rien n'empêche la chatmania, virtuelle ou non, de nous faire un bien fou.
On apprivoise pas les chats sauvages, pas plus qu'on met en cage les oiseaux de la terre. Faut les laisser aller comme on les laisse venir au monde. Faut surtout les aimer, jamais chercher à les garder. Doucement, je veux voyager en jasant d'amour et de liberté. On n'emprisonne pas les cœurs volages, pas plus qu'on coupe les ailes aux oiseaux de la terre. C'est aller toujours sans chercher à comprendre. Il marche seul et non qu'un seul langage, celui de l'amour, celui de la vie. Il chante pour toi si t'en as envie.
Eh bien, c'était la chanson « Chat sauvage » des sœurs Boulet. Chevelure au top. Soin, coupe, astuce de pro. Un spécial coiffure pour vous aider à changer de tête et à être pile poil dans les tendances de l'automne. C'est par Suzanne Goudreau dans le Véro Magazine de l'automne 2014. Alors tout d'abord, les tresses de déesse. Enroulées ou entortillées en chignon, en couronne ou en macaron, sage ou sauvageonne, les nattes se déclinent à l'infini. Les timides opteront pour une seule mèche tressée, les romantiques pour une tresse bandeau, les désinvoltes et les bohèmes pour un look coiffé-décoiffé et les audacieuses pour les raies tressées. Les effets de raies, à droite, à gauche ou au milieu, peu importe. La séparation doit être bien nette et rectiligne. Classique et faussement sage, l'arrêt au milieu souligne le contour du visage et sublime les cheveux épais, ondulés ou bouclés. Mais si on a les cheveux fins, on s'abstient, grâce à l'effet Tignas Filas. Pour gagner en volume, affiner un visage rond et adopter un look plus sophistiqué, on mise plutôt sur une raie excentrée et très basse. À l'aide de la pointe d'un peigne à queue, on trace une séparation qui débute à la hauteur du milieu du sourcil ou du point le plus haut de l'arcade sourcilière et qui se termine au sommet de la tête. On vaporise ensuite un peu, mais pas trop, de spray fixant sur les racines. Les chouettes couettes, l'indémodable queue-de-cheval lisse, s'adapte à toutes les crinières et à tous les styles. Sage, on la porte basse en la nouant simplement au-dessus de la nuque. Graphique, on entrelace de larges mèches. Chic, parfaitement lissée, elle se dresse très haut sur la tête. Et la touche chic, on enroule une fine mèche de cheveux autour de l'élastique et on fixe le tout avec une épingle. Sophistiquée, la queue de cheval est crantée avec de petits élastiques disposés à intervalles réguliers sur toute la longueur des cheveux. Et ethnique, on entremêle aux cheveux des rubans tressés et colorés. Tentation ondulation. Allez, oust la chevelure à plat-plat. Cette saison, les ondulations souples sont de retour. Qu'on ait les cheveux longs ou une coupe au carré, cette coiffure saut du lit est facile à réaliser. Même pas besoin de passer par la case fer à boucler. Il suffit d'appliquer un baume nourrissant sur les cheveux humides après le shampoing et de les enrouler en chignon. On laisse sécher, puis on dénoue et on froisse avec les doigts. Surtout, on ne brosse pas les cheveux. On ne veut pas casser les boucles, mais bien garder l'effet wavy. Petite touche sexy et tendance, le soir, on ramène toute la chevelure sur une seule épaule. Mèche dans le vent. On n'y échappera pas, la large mèche plaquée sur tous les fronts. Asymétrique, ultra longue et bien lissée, elle apporte une touche de modernité à une coupe classique. Chignon à foison, torsadé, au perché, bourriffé, en bonne XL ou façon ballerine. Les chignons font sensation et sont les stars de la saison. Comme ils sont modulables, ils conviennent à toutes les occasions. Pour un chignon impec et une meilleure tenue, on lave ses cheveux la veille et non le jour même. Ils seront plus faciles à coiffer. Plaque attaque. Aussi joli sur les coupes courtes que sur les cheveux longs, le look plaqué prend l'automne d'assaut. Pour un bel effet mouillé, mais pas sorti de douche, on fait fi des frisottis et on lustre la chevelure avec un gel ou une huile en gardant la main légère. On se munit d'un peigne pour lisser au maximum le dessus de la tête jusqu'à la nuque, tout en laissant le reste de la chevelure au naturel si elle est longue. Puis on noue ou pas, en chignon serré ou en queue de cheval. Retour au rétro. On s'inspire des icônes hollywoodiennes et on révise les années 40 et 50 avec des mèches crantées, ou encore, dans un esprit très 60s, on se fait une coque tout en volume qui vient rehausser un chignon et une queue de cheval. Un visage, une coupe. Pour avoir un look tendance qui nous ira vraiment bien, il faut mieux tenir compte de la forme de notre Nîmois. Quatre cas de figure, c'est par Angélique Martel, toujours dans le Véro magazine. Si on a un visage allongé, d'abord, il faut éviter la raie médiane qui allonge les traits. Ensuite, il faut chercher à donner du volume au pourtour du visage. Si on a les cheveux courts, les coupes diamants, coupes courtes à la nuque mais longues sur le sommet du crâne, le front et les tempes sont idéales. Si notre chevelure est mi-longue, on opte pour le carré frangé et ébouriffé qui donne de la largeur au visage tout en dissimulant la proéminence du front. Dans le cas des cheveux longs, les dégradés avec des vagues arrondissent joliment le visage. Visage ovale. Les figures ovales sont un classique de la beauté. Tous les styles leur conviennent. La coupe pixie, façon Jennifer Lawrence, courte, archi-dégradée et surplombée de longues mèches sur le devant de la tête. Un bob pleine longueur, archi-lisse ou carrément échevelé. Ou une longue chevelure ondoyante qui vient chatouiller le front et le pourtour du visage de mèches finement effilées. Un visage rond, pour amincir un minois joufflu, il faut des longs cheveux qui coupent sur les épaules afin de ne pas écraser la silhouette. Exit les chevelures lisses et pleines longueurs. Un dégradé donne de la légèreté à la masse et favorise même les ondulations. Une frange en diagonale dissimulera les fronts bombés et une raie de côté mettra notre profil en évidence. Et enfin, un visage carré, il faut arrondir les angles en privilégiant la hauteur et la longueur. Pour alléger la masse et lui permettre de mieux gonfler, on la dégrade, on affine les pointes et on évite de tailler sa frange en angle droit. On effile aussi la couronne et on préconise les ondulations floues, féminines et romantiques. Mauvaise prédiction. Les dés ne roulent pas pour vous aujourd'hui. Un conflit inattendu pourrait vous faire passer un très mauvais quart d'heure. Difficile à concevoir, mais un horoscope comme celui-ci a le potentiel de motiver certaines personnes à passer une magnifique journée. C'est du moins ce que montre une étude menée par des chercheurs de l'Université de Chicago qui se sont intéressés à l'influence de l'horoscope sur nos prises de décision. Après avoir proposé à des participants ayant reçu de mauvaises prédictions deux types d'activités, faire soit la fête, soit le ménage, ils ont découvert que les gens qui croient leur destin immuable ont tendance à donner raison aux présages en choisissant des activités banales et ennuyantes comme les tâches ménagères. À l'opposé, les participants convaincus d'avoir le contrôle sur leur destin se révèlent plus susceptibles de faire un pied de nez aux astres et de sortir s'amuser, envers et contre tous. La voix de l'âme. Notre fierté ou notre piètre estime de nous-mêmes, notre sexualité, notre pouvoir de séduction ou de persuasion, notre musicalité, notre créativité, notre inconscient et notre passé. Notre voix, c'est tout cela, un univers intérieur à écouter et à exprimer. C'est par Nicolas Gisiger et c'est dans le Véro Magazine de l'automne 2014. Ce n'est pratiquement rien, un souffle venu de notre ventre ou de notre poitrine, deux petits cartilages qui s'ouvrent et se ferment dans le fond de notre gorge. Et pourtant, la voix est un mystère unique à chacun de nous. Tout au long de notre vie, nos cordes vocales se modifient sous l'influence des hormones et du temps. Elles s'allongent, se relâchent, développent de petites bosses, portent des marques. Elle se forge pour nous donner un timbre aussi personnel que les rides d'expression de notre visage. Ainsi, tandis que nous utilisons notre voix pour exprimer nos mots, cette dernière exprime qui nous sommes. Un jour, une magnifique jeune femme noire est venue me voir, raconte Lynn Gendron, une professeure de chant bien connue dans l'est du plateau Mont-Royal. Au début, elle ne voulait pas trop me dire ce qu'elle faisait dans la vie. Elle avait peur d'être jugée. Puis elle m'a dit « Je suis danseuse, danseuse nue. » Vers la moitié du cours, je lui ai demandé de me chanter un passage d'une chanson qu'elle aimait. Eh bien, elle en a été incapable. Elle n'est jamais revenue. Vous imaginez ? Chaque soir, elle se montrait toute nue devant des clients. Mais elle n'était pas prête à cette mise à nu-là. C'était trop intime. Se révéler avec sa voix, c'est épeurant. La voix est aussi une grande diva. Quand nous éprouvons une émotion, notre cerveau sécrète des neurotransmetteurs qui agissent directement sur notre larynx où se trouvent nos cordes vocales. Nous ne pouvons donc pas la contrôler. Si nous sommes tristes et que nous voulons faire comme si de rien n'était, Nous pouvons raisonnablement maîtriser les muscles de notre visage. Mais notre voix, elle, ne ment pas. Elle se casse, se noue. On a une boule dans la gorge, car notre émotion veut passer. De même, sous le coup de la colère, nos cordes s'étirent et rendent la voix plus aiguë. Pour les psychologues, ces changements de timbre peuvent révéler beaucoup plus qu'une émotion. Ils sont l'expression des voix de notre passé. L'être humain ressemble à des poupées russes, emboîtées les unes dans les autres. Chacune représente une année de notre vie, une couche de notre personnalité, me dit la psychologue Élise Castonguet. Quand le patient raconte quelque chose et que sa voix change, le thérapeute doit se demander « Quel âge a cette voix qui me parle ?» Quand quelqu'un se met dans une rage folle parce que son voisin a déposé des poubelles sur sa galerie, par exemple, s'active une situation qu'il a pu vivre quand il avait 5 ans. Sa rage, sa façon de parler, c'est son moi d'enfant. L'inconscient est si lié à notre voix qu'il peut la faire disparaître. Tant que nous ne lui donnerons pas la parole, il ne nous redonnera pas la nôtre. Je me souviens d'une dame qui avait reçu une amie chez elle pour quelques jours, relate Lynn Defoy, orthophoniste au CHU de Québec. Un soir, cette amie a fait un AVC. La dame a composé le 911, elle l'a accompagnée à l'hôpital. Bref, elle a fait tout ce qu'il fallait. Quand son amie est repartie, la dame a complètement perdu sa voix. Ses cordes vocales étaient tendues, elle ne se touchait presque pas. Les exercices habituels l'aidaient un peu, mais sa voix était faible et très aiguë. Finalement, quand elle a revu cette amie, elles se sont rappelées ensemble ce qui était arrivé et la dame a dit à son amie deux choses. Qu'elle se sentait terriblement coupable et surtout qu'elle avait peur que cette amie ne revienne plus jamais la voir. Dès qu'elle a dit ça, dès qu'elle a mis des mots sur ce qu'elle ressentait, vraiment, au fond d'elle-même, sa voix est revenue. Il nous est tous arrivé un jour d'entendre notre voix sur un message enregistré ou sur une vidéo et de nous dire « Non, ce n'est pas moi ». En soi, ça n'a rien d'anormal, car nous n'entendons jamais notre voix de la même façon que ceux qui nous écoutent. Nous l'entendons vibrer dans nos os, alors que nos interlocuteurs, eux, l'entendent vibrer dans l'air. Mais la raison peut être plus profonde. Cette voix peut nous faire entendre que notre façon de nous montrer aux autres ne correspond pas à notre nature profonde. C'est notamment le cas des personnes qui sont mal dans leur peau, dont la voix ne porte pas. On nous élève pour qu'on soit une gentille personne, qui ne prend pas trop de place, qui ne fait jamais rien de déplacé, m'explique la chanteuse Nathalie Choquette, qui a trouvé sa voix à 11 ans en entendant une cantatrice. Je pense que le chant peut aider les personnes introverties. Vous savez, la voix, ce n'est pas que faire des A, E, I, O, U. C'est quelque chose de très puissant. Chanter une chanson ou un air d'opéra, c'est avoir la permission temporaire d'être quelqu'un d'autre qui ose. Puis, petit à petit, à force d'oser, eh bien, on s'y habitue et on ose être soi-même. Et on se rend compte que les autres nous aiment quand même. On est toujours dans le texte « La voix de l'âme » dans le Véro Magazine de l'automne 2014 par Nicolas Giziguer. Excusez-moi, je ne sais plus où j'en suis. Lynn Gendron, qui enseigne depuis 20 ans et dont la bibliothèque est garnie d'ouvrages de psychologie de la voix, se souvient d'un étudiant qui, de chenille, est devenu papillon grâce à l'expression artistique. C'était un Français au début de la vingtaine qui était venu étudier à McGill pour apprendre l'anglais. Il était voûté, sa voix était presque inaudible. Pour que son souffle circule bien, Il a appris à se tenir droit et il a gagné 2 pouces. 6 mois plus tard, sa voix au quotidien avait changé. Pendant le temps des fêtes, il est retourné chez lui et, au souper de famille où son frère avait l'habitude de prendre beaucoup de place, il a parlé et surtout, on l'a écouté. En fait, il venait au cours pour prendre sa place dans sa famille. Chanter, c'est être fier. Un des secrets du succès de l'émission La Voix est sans aucun doute les fameuses auditions à l'aveugle. Tandis qu'un candidat chante à gorge déployée, nous scrutons le visage des coachs qui, le dos tourné à la scène, essayent d'imaginer le physique qui correspond à cette voix. Et nous éprouvons surtout un malin plaisir à voir leur surprise au moment où ils se retournent, notamment lorsqu'une voix au perché se révèle être celle d'un homme corpulent. Ce que montre cet exercice, c'est que le son d'une voix crée toujours l'image d'un corps dans notre esprit. Et, de prime abord, l'image d'un corps sexué, ce qui cause bien des difficultés aux transgenres. Pour les transformations de femme à homme, il n'y a pas de problème avec la prise d'hormones. La forme du larynx se modifie, comme chez les garçons à la puberté, me dit l'orthophoniste Lynn Defoy. Mais dans le cas d'homme à femme, c'est plus difficile, car le changement du larynx est irréversible. On peut procéder à certaines interventions, étirer les cordes vocales par exemple, mais ce n'est pas toujours efficace. Les hommes doivent donc entreprendre un long travail pour trouver une voix qui correspond à leur nouveau corps de femme. Une voix, c'est aussi un âge. Ainsi, certaines femmes qui ont recours à la chirurgie esthétique pour rajeunir leur apparence se rendent compte que leur voix les trahit. C'est pourquoi, aux États-Unis, des chirurgiens offrent un voice lift. Pour quelque 25 000 $, ils prélèvent du gras du ventre et l'implantent sur les cordes vocales pour leur redonner leur souplesse et leur jeunesse. Mais une simple voix peut créer l'image d'un corps désirable. En fait, son rôle en matière de séduction et de désir sexuel est si grand que plusieurs psychologues la considèrent comme un organe sexuel secondaire. Selon une étude publiée dans la revue scientifique PLOS ONE, les voix graves seraient jugées plus séduisantes par les femmes, car elles créeraient dans leur esprit l'image d'un corps fort et de grande taille, et ayant un grand potentiel reproducteur, autant de qualités importantes pour la survie de l'espèce. Mais bon, la nature nous joue parfois des tours. La même revue a publié une autre étude selon laquelle les hommes ayant une voix grave présenteraient une concentration en spermatozoïdes moins élevée. Quant aux hommes, ils préfèrent les voix féminines hautes, qui laissent supposer une femme de petite taille. La voix des femmes devient d'ailleurs un peu plus aiguë en période de pré-ovulation et dirait malgré elles qu'elles sont fertiles. Au travail, la voix est partout. Un chevrotement incessant dans la gorge à un entretien d'embauche peut nous faire perdre toute notre crédibilité, même si nous avons toutes les compétences requises. La voix grave et autoritaire d'un patron peut nous mettre des nœuds dans le ventre et nous rendre muets, même quand c'est lui qui est dans son tort. Notre voix aiguë et nerveuse peut agacer et distraire nos auditeurs pendant une présentation qu'on a passé des jours à préparer. Son rôle est si important que l'entreprise suisse Vox Institute, qui compte parmi sa clientèle des membres d'organisations internationales, de multinationales et de gouvernements, a créé un logiciel pour établir le modèle de la voix parfaite. Pour quelques francs, ses employés enregistreront votre voix, la modifieront électroniquement pour vous faire entendre à quoi elle devrait ressembler pour être persuasive, puis vous apprendront à vous exprimer avec cette nouvelle voix. L'important dans une conversation professionnelle est de capter l'attention de notre interlocuteur et de la retenir. Pour ce faire, notre voix doit mettre en évidence nos paroles et non envoyer un message qui les dessert. Ainsi, si nous parlons trop rapidement, nous donnons l'impression que nous voulons nous débarrasser de ce que nous disons. De même, un timbre monotone envoie le signal que nos propres paroles nous ennuient. Le secret, c'est la musicalité, un tempo lent et des phrases dont la mélodie monte et descend, créent un effet apaisant qui charme tout de suite nos auditeurs et ouvre grand la voix de nos mots. Comment trouver sa voix ? La professeure de chant Lynn Gendron nous propose 4 exercices pour libérer notre voix et entrer en contact avec nous-mêmes. Pour exprimer vos émotions avec votre voix, placez un bras derrière vous, comme si vous vous prépariez à lancer une balle. Balancez ensuite le bras en avant et lâchez l'objet imaginaire le plus loin possible. En laissant aller cette balle, libérez votre voix en faisant résonner la voyelle A, en exprimant avec votre ventre. Imaginez que vous relâchez différentes émotions, joie, colère, tristesse, en les mimant avec votre visage. Faire de 5 à 10 fois. Pour dénouer votre voix, cet exercice vous aidera à déloger les tensions qui peuvent apparaître dans votre cou et serrer votre larynx. La cage thoracique doit être bien ouverte, les épaules rejetées en arrière et la colonne bien droite. En tirant la langue vers le bas, expirez bruyamment en exécutant le son « ah » tout en rentrant l'abdomen et en tirant vos bras vers l'arrière. Faire 5 fois. Pour découvrir l'étendue de votre voix, balayez tout votre registre vocal, du plus grave au plus aigu, en imitant le son d'une sirène de police en prononçant le son « ou ». Cet exercice vous fera explorer votre voix de poitrine et votre voix de tête et à long terme, vous aidera à mettre en contact vos pensées et votre corps. À exécuter assez rapidement, 3 montées et 3 descentes avec une seule respiration. Et enfin, pour libérer votre voix, dans un endroit où vous pouvez faire beaucoup de bruit, une salle vide ou préférablement au bord d'un lac, au sommet d'une montagne, dans une forêt, tenez-vous bien droit, les jambes à la largeur des épaules et criez « Ohé !» en prenant bien soin d'expirer l'air par le ventre. Faire 3 à 5 fois.
La nuit des mots, j'ai dit de la vie, de l'âme et du corps, de l'homme et du loup, de l'air et de l'eau, de tout ce qui crie, mais si peu de vous, mais si peu de vous, je ne sais pas bien si je dois le dire, mais parfois je sors de ce corps si gourd. Et je vais très loin, voir si le vent vire. Au bout de mes jours, au bout de mes jours. Et je vais très haut, pour voir si la terre a vu dans ma vie les fleurs de sa mort. Je ne sais pas trop, si je dois le taire. Et le froid me mord, et le froid me mord. Je suis ce grand feu qui tue et qui mange l'arbre, l'eau et l'air, la chair et le sang. Je suis ce faux dieu entre l'homme et l'ange qui meurt en naissant, qui meurt en naissant. Parlez-moi du jeu, du rire et des roses et de l'eau qui chante.
Eh bien, c'était Gilles Vigneault dans La nuit des mots. Bon, c'est bientôt l'hiver, hein, donc j'ai un petit texte là. Une maison prête pour l'hiver. Votre maison a besoin d'un peu d'attention avant l'arrivée du temps froid. Voici la liste des tâches à accomplir afin que votre demeure soit prête à affronter l'hiver. C'est dans le mois et compagnie d'octobre et c'est par Suzanne Duquette. Tout d'abord, retirez les moustiquaires et les climatiseurs. Ôtez les moustiquaires pour augmenter la luminosité dans la maison et le climatiseur pour éviter que l'air froid ne s'y engouffre. Nettoyez les fenêtres. Vous permettrez ainsi au soleil de pénétrer au cœur de la maison, en plus de donner un coup de pouce à votre système de chauffage. Vérifiez l'état des coupes froid. Assurez-vous que ceux des fenêtres et des portes soient en bon état. Pour que le caoutchouc demeure souple, enduisez-le de gelée de pétrole. Enfin, posez un coupe-froid en métal ou en vinyle au bas des portes. Les fenêtres sont en bois? Vérifiez l'état du mastic et effectuez les réparations qui s'imposent pour éviter les infiltrations d'eau. Nettoyez les gouttières. Débarrassez les gouttières des feuilles et autres débris. Les pluies lourdes de l'automne pourront bien s'écouler. Si ce boulot vous pèse, faites poser des protège-gouttières. Faites ramonner la cheminée. Si vous avez encore un poêle à combustion lente ou une cheminée au bois, ne négligez pas le ramonage de la cheminée. Ce travail doit être réalisé tous les ans par un professionnel de l'APC, l'Association des professionnels du chauffage. Vous trouverez la liste des ramoneurs certifiés sur le site poêlefoyer.ca. Vérifiez l'état de la toiture. Que le toit soit en pente ou plat, vérifiez l'état du recouvrement, du drain ainsi que des solins qui ceinturent la toiture. À l'intérieur, faites inspecter la fournaise. Cette dernière doit être en parfait état de fonctionnement. Rien de plus désagréable qu'un système de chauffage qui tombe en panne quand le mercure est au plus bas. Dépoussiérez les radiateurs. Passez l'aspirateur sur les radiateurs et les plaintes chauffantes. Nettoyez le filtre de l'échangeur d'air et de la fournaise à air pulsé. Calfeutrez les portes et les fenêtres. On trouve du calfeutrage en latex, en caoutchouc et en silicone. Des pattes, des bandes, des lanières de caoutchouc, des mousses. Demandez à un conseiller en magasin quel produit convient le mieux à vos installations. Pensez au ventilateur. Si vous avez un ventilateur au plafond, inversez le sens de la rotation des pales. Faites tourner les pales du ventilateur dans le sens des aiguilles d'une montre pour pousser l'air chaud vers le haut. Réglez la température du thermostat. Vous avez un vieux modèle? Il serait peut-être temps de passer au thermostat électronique plus précis. Vous pourrez ainsi régler la température pour le jour comme pour la nuit. Changez les piles des détecteurs de fumée. Ne négligez pas de changer les piles de ce type d'appareil tous les ans. Saviez-vous que la durée de vie d'un détecteur de fumée est de 10 ans? Prévoyez le matériel de base et la trousse d'urgence. Sortez les tapis, les pelles et le matériel de déglaçage. Assurez-vous d'avoir une trousse d'urgence complète comprenant une radio à pile, une lampe de poche, un réchaud de camping et des couvertures chaudes. Recouvrez les tuyaux. Enveloppez les tuyaux de plomberie au sous-sol d'une gaine de caoutchouc en mousse isolante. L'eau restera chaude plus longtemps. Et au jardin? Alors pour le jardin, fermez les conduites d'eau extérieure. Fermez le robinet, mais aussi la valve située à l'intérieur pour éviter que les tuyaux éclatent. Nettoyez le terrain. Débarrassez-vous du bois mort et des feuilles. C'est souvent dans ces débris que se cachent les fourmis charpentières et les petits rongeurs. Taillez les arbres. Si certaines branches d'arbres menacent de tomber sur le toit, faites venir un expert pour évaluer les risques et éventuellement les faire couper. Nettoyez les meubles de jardin. Lavez les fauteuils et les tables et séchez-les avant de les couvrir d'une bâche ou de les entreposer au garage. Et enfin, rentrez les jardinières. Certaines jardinières en terre cuite et certaines fines herbes comme le romarin, le laurier, etc., ne supportent pas le temps froid. C'est le moment de rentrer les plantes et les pots à l'intérieur. Pensez aussi à ranger les tuyaux d'arrosage et à changer les ampoules extérieures. We'll be right back. Alors, une petite idée déco pour un petit bureau. À cause du manque de place ou parce qu'on doit libérer une chambre pour l'arrivée de bébé, on relègue souvent le bureau dans un coin. Résultat, bordélique, il gêne la circulation. Voici quelques solutions. Premièrement, on commence par un inventaire des articles à organiser. On fait preuve de créativité. Les tiroirs sont inutiles, alors on n'achète pas de pupitre, mais une jolie table qui s'agencera aux autres meubles. On optimise le rangement à la verticale jusqu'au plafond à l'aide d'étagères murales. Pour alléger l'impact visuel, on cache les documents dans des boîtes stylisées, mais bien identifiées, et on laisse de la place pour des objets inspirants, comme des cadres. On garde l'esprit ouvert. En boutique, on trouve de belles solutions de rangement dans la section cuisine. Sur Internet, le site Etsy, etsy.com/CA, propose des accessoires originaux. Autre exemple, au babillard désordonné, on préfère les planches à pinces, plus pratiques pour regrouper la paperasse, et le mur à effet tableau magnétique pour son look. Et enfin, on donne du caractère à l'ensemble en choisissant une chaise moderne mais ergonomique. Attention aux dimensions. On veut qu'elle puisse s'insérer sous la table et libérer l'air de circulation. Il y a aussi le bureau dans le placard. Chez les blogueuses déco, le placard transformé en espace de travail à la cote. En effet, sur les réseaux sociaux, tels Pinterest, il n'est pas rare de voir des images de garde-robe complètement repensées pour accueillir un bureau, qu'il soit ouvert ou dissimulé derrière des portes pliantes. Cinq conseils pour se reconnecter avec sa féminité. On ose les jupes et les robes selon nos préférences. Les matières fluides, les transparences et les matières comme la soie et les cachemires fins rehaussent aussi la féminité. On accessoirise davantage nos ensembles en choisissant des pièces qui reflètent la lumière. La chaussure est aussi très importante. On privilégie le talon haut pour allonger la silhouette. Mais il n'est pas nécessaire qu'il soit vertigineux. Les couleurs pastels comme le rose et le bleu poudre sont tendance cet automne et contribuent à accentuer le côté féminin de nos tenues. La mise en beauté joue un rôle clé dans la féminisation de notre allure. On arbore une coupe de cheveux actuelle et un maquillage discret qui rehausse les détails du visage. Et enfin, on choisit des morceaux de la bonne taille. On évite de camoufler nos formes sous des vêtements trop amples. On oublie les vêtements sans forme et les tenues de sport, sauf quand on fait du sport. Eh bien, merci d'avoir été avec nous. Un grand merci également à Kamal Silafou pour sa mise en onde et ses choix musicaux. Si vous avez des commentaires, vous pouvez aller sur notre site canalm.org ou nous laisser un message au 1-800-361-0635, poste 220. Passez une belle journée malgré cette pluie qui n'arrête pas et surtout une très bonne fin de semaine d'Action de grâce. On se retrouve mercredi prochain.